Chapitre 17. Ifemelu décida de cesser de prendre l'accent américain un jour ensoleillé de juillet, le jour où elle rencontra Blaine. Un accent convaincant. Elle l'avait perfectionné en écoutant avec attention ses amis ou les présentateurs des informations, avec les T voilés, le roulement crémeux des R, les phrases qui commençaient par « donc » et la réponse susurrée « oh, vraiment ?» Mais c'était un acte conscient. Un acte de volonté. Il demandait un effort particulier, une distorsion de la lèvre, un enroulement de la langue. Si elle était prise de panique, ou terrifiée, ou réveillée en sursaut durant un incendie, elle serait incapable de se rappeler comment articuler ces sons américains. Aussi décida-t-elle d'arrêter en ce jour d'été, le week-end de l'anniversaire de Dickey. Elle y fut incitée par un télémarketeur. Elle se trouvait dans son appartement de Spring Garden Street, le premier qui était vraiment à elle en Amérique, à elle seule, un studio avec un robinet qui fuyait et un chauffage bruyant. Dans les semaines qui avaient suivi son installation, elle s'était sentie légère, enveloppée d'une sensation de bien-être, parce qu'elle ouvrait le réfrigérateur en sachant que tout ce qu'il contenait était à elle, et qu'elle pouvait nettoyer la baignoire en sachant qu'elle n'aurait pas la désagréable surprise d'y trouver des touffes de cheveux de ses colocataires. Officiellement, il est situé à deux blocs du vrai quartier chaud. C'était ce que lui avait expliqué le gardien de l'immeuble, Jamal, en lui disant de s'attendre à entendre de temps à autre des coups de feu la nuit. Mais elle avait beau ouvrir la fenêtre le soir, prêter l'oreille, elle n'entendait rien de plus que les bruits de la fin de l'été. La musique qui s'échappait des voitures, les rires joyeux des enfants qui jouaient en bas, les appels de leur mère. Ce matin de juillet, son sac de week-end déjà bouclé pour le Massachusetts, elle préparait des œufs brouillés quand le téléphone sonna. L'écran du téléphone affichait « inconnu » et elle pensa qu'il s'agissait peut-être de ses parents qui l'appelaient du Nigeria. Mais c'était un télémarketeur, un jeune Américain qui proposait de meilleurs tarifs pour les appels interurbains et internationaux. Elle raccrochait toujours avec les télémarketeurs, mais il y avait quelque chose dans cette voix qui la poussa à éteindre la cuisinière et à rester en ligne. Quelque chose d'émouvant, de jeune, de nouveau, d'inexpérimenté. Un imperceptible tremblement, une insistante gentillesse de vendeur qui n'avait rien d'insistant au fond. Comme s'il débitait ce qu'il avait été entraîné à dire tout en craignant terriblement de l'importuner. Il demanda comment elle allait, quel temps il faisait dans sa ville. Et dit qu'il faisait très chaud à Phoenix. C'était peut-être son premier jour de télémarketing. Le petit récepteur du téléphone enfoncé désagréablement dans l'oreille, espérant à moitié que les gens qui l'appelaient ne répondraient pas. Pleine de pitié pour lui, elle lui demanda s'il avait un tarif meilleur que 50 cents la minute pour le Nigeria. Restez en ligne pendant que je cherche le Nigeria, dit-il, et elle retourna à ses œufs. Il revint en disant que son tarif était le même. Mais ne lui arrivait-il pas d'appeler un autre pays, le Mexique, le Canada ? Eh bien, je téléphone parfois à Londres, dit-elle. Guinica y était partie pour l'été. Bon, ne quittez pas pendant que je regarde la France. Elle éclata de rire. Qu'y a-t-il de drôle ? Demanda-t-il. Son rire redoubla. Elle était sur le point de lui dire, sans ménagement, qu'elle s'étonnait de le voir vendre des tarifs téléphoniques internationaux sans savoir où se trouvait Londres. Mais quelque chose la retint. L'image qu'elle se faisait de lui. 18 ou 19 ans peut-être. Trop gros, le teint rose, embarrassé avec les filles, fan de jeux vidéo et ignorant tout des bouleversements contradictoires qui étaient l'essence de ce monde. Il y a une vieille comédie hilarante à la télévision. Oh vraiment ? Il rit à son tour. Une telle naïveté lui brisa le cœur et quand il revint lui donner les tarifs pour la France, elle le remercia et lui dit qu'ils étaient meilleurs que ceux qu'elle avait et qu'elle réfléchirait à la possibilité de changer d'opérateur. Quel serait le meilleur moment pour vous rappeler, si vous êtes d'accord ? Elle se demanda s'il était payé à la commission. Son chèque de fin de mois serait-il plus gros si elle changeait de compagnie de téléphone ? Parce qu'elle le ferait, tant que cela ne lui coûtait rien. Le soir, dit-elle. Puis-je vous demander à qui je m'adresse ? Je m'appelle Ifemelu. Il répéta son nom avec une application exagérée. « C'est un nom français ?»« Non, nigérian. »« Votre famille est originaire du Nigeria ?
Oui.
Elle versa les œufs dans une assiette. J'ai été élevée là-bas.
Oh, vraiment ? Depuis combien de temps êtes-vous aux États-Unis ?
3 ans.
Waouh, cool ! Vous parlez exactement comme une Américaine.
Merci. C'est seulement après avoir raccroché qu'elle sentit se répandre en elle les premiers signes d'un remords naissant pour l'avoir remerciée, avoir fait de ces mots « vous parlez comme une Américaine » une guirlande de fleurs autour de son cou. En quoi était-ce un haut fait, une réussite, de parler comme une Américaine ? Elle avait gagné. La pâle Christina Thomas, sous le regard de qui elle s'était recroquevillée comme un petit animal vaincu, lui parlerait normalement à présent. Elle avait gagné, certes, mais son triomphe était vide. Sa fugace victoire laissait derrière elle un vaste espace, empli de résonance, parce qu'elle avait emprunté trop longtemps une intonation et un comportement qui n'étaient pas les siens. Elle finit de manger ses œufs et décida de cesser de prendre l'accent américain. Elle parla pour la première fois sans l'accent américain à la gare de la 30e rue, penchée vers la femme qui était derrière le comptoir de l'Amtrak. «
Pourrais-je avoir un aller-retour pour Avril, s'il vous plaît ?»«
Le retour dimanche après-midi. J'ai une carte de réduction d'étudiants, » dit-elle, et une vague de plaisir la parcourut lorsqu'elle donna tout son poids au « ré » de réduction, en ne roulant pas le « r » de Avril. Elle était enfin elle. C'était la voix qu'elle aurait si elle se réveillait d'un sommeil profond durant un tremblement de terre. Cependant, elle décida que si l'employé de l'Amtrak réagissait à son accent en parlant trop lentement, comme si elle s'adressait à une idiote, elle prendrait alors la voix de M. Agbo, la prononciation affectée, maniérée qu'elle avait apprise dans les rencontres débats de l'école secondaire, quand M. Agbo, leur professeur barbu, tirant sur sa cravate élimée, leur passait ses cassettes d'enregistrement de la BBC et faisait répéter et répéter les mots à ses élèves jusqu'à ce que ravi, ils s'exclament « Correct !» Elle adopterait également, en plus de la voix de M. Agbo, un léger haussement de sourcils, imitant l'attitude hautaine d'une étrangère. Mais tout cela se révéla inutile parce que l'employé derrière le guichet répondit normalement. « Puis-je avoir une pièce d'identité, miss ?» Et donc, elle n'utilisa pas la voix de M. Agbo jusqu'à sa rencontre avec Blaine. Le train était bondé. La place à côté de Blaine était la seule libre dans la voiture, autant qu'elle puisse le voir. Et le journal et la bouteille de jus de fruits posée sur le siège semblaient lui appartenir. Elle s'immobilisa, fit un geste en direction du siège, mais il garda les yeux fixés devant lui. Derrière elle, une femme traînait une lourde valise. Le contrôleur fit une annonce demandant que tous les effets personnels soient retirés des sièges libres. Blaine la vit attendant devant lui. Comment aurait-il pu ne pas la voir ? Mais il ne fit aucun mouvement. Aussi, sa voix de M. Agbo se fit entendre. «
Excusez-moi, ces affaires sont-elles à vous ? Pourriez-vous les retirer ?»
Elle mit son sac dans le filet et s'installa sur le siège, droite comme un i, son magazine à la main, son corps orienté vers le couloir. Ses excuses la surprirent, son expression sérieuse et sincère, comme s'il avait commis quelque chose de beaucoup plus répréhensible.
« Je vous en prie, » dit-elle, et elle sourit.
« Bonjour, comment allez-vous » demanda-t-il. Elle avait appris à dire
« Bien, et vous, comment allez-vous »
avec ce ton chantant propre aux Américains, mais elle dit
« Je vais bien, merci. »
« Je m'appelle Blaine. » dit-il, et il lui tendit la main. Il paraissait grand. Il avait la peau couleur pain d'épices et le genre de corps élancé et bien proportionné qui convient à un uniforme, n'importe quel uniforme. Elle sut tout de suite qu'il était afro-américain, pas caribéen ni africain, ni un enfant d'immigrant originaire d'un de ces pays. Elle n'avait pas toujours été capable de le deviner aussi facilement. Un jour, elle avait demandé à un chauffeur de taxi «
Et vous, d'où êtes-vous ? »
D'un ton dégagé, assuré, certaine qu'il était ghanéen. Et il avait dit «
Détroit ?»
en haussant les épaules. Au fil du temps, elle était devenue capable de distinguer, parfois simplement d'après l'apparence et la démarche, mais le plus souvent d'après l'allure et le comportement, cette subtile empreinte que la culture appose sur chacun. Elle n'avait aucune hésitation concernant Blaine. C'était un descendant des Noirs, hommes et femmes, qui était établi en Amérique depuis des siècles.
Je m'appelle Ifemelu. Enchantée de vous connaître.
Vous êtes nigériane ?
Oui, exactement.
Une bourgeoise nigériane ? Dit-il et il sourit.
Il y avait une familiarité surprenante et immédiate dans sa façon de la taquiner, de la traiter de privilégiée.
Pas plus bourgeoise que vous,
répliqua-t-elle. Il se trouvait sur le solide terrain du flirt à présent. Elle l'examina tranquillement, son pantalon de toile claire et sa chemise bleu marine, le genre de tenue choisie, en y consacrant la réflexion nécessaire, par un homme qui se regardait dans une glace, mais sans y passer trop de temps. Il possédait une certaine connaissance des Nigérians, lui dit-il. Il était professeur assistant à Yale. Et bien que son centre d'intérêt soit surtout l'Afrique méridionale, comment n'aurait-il pas connu les Nigérians ? Ils étaient partout.
Grosso modo, un Africain sur cinq est Nigérian, non ?
Demanda-t-il sans cesser de sourire. Il y avait quelque chose de gentiment ironique dans son attitude, comme s'il partageait une collection de plaisanteries personnelles qu'il n'avait pas besoin d'exprimer.
Oui, nous autres Nigérians circulons beaucoup. Il le faut. Nous sommes trop nombreux et manquons d'espace,
dit-elle, et elle fut frappée de voir à quel point ils étaient proches, séparés seulement par un accoudoir. Ils parlaient le genre d'anglais américain qu'elle venait juste d'abandonner, celui qui fait croire aux enquêteurs dans les sondages téléphoniques sur la race que vous êtes blanc et instruit.
Ainsi, l'Afrique méridionale est votre spécialité.
Non, la politique comparée.
On ne peut pas se cantonner à l'Afrique dans les programmes universitaires de sciences politiques dans ce pays.
Vous pouvez comparer l'Afrique à la Pologne ou à Israël, mais se concentrer sur l'Afrique seule, il ne vous en donne pas la possibilité.
Son utilisation du « vous » suggérait un « nous » qui les englobait tous les deux. Ses ongles étaient propres. Il ne portait pas d'alliance. Elle se mit à envisager une liaison avec lui, à imaginer qu'il se réveillait en hiver, tous deux blottis dans la blancheur crue de la lumière matinale, buvant du thé English breakfast. Elle espérait qu'il faisait partie de ces Américains qui aimaient le thé. Son jus de fruits, dont la bouteille était glissée dans la poche du siège en face de lui, était du jus de grenade bio. Une simple bouteille brune avec une simple étiquette brune, toutes deux élégantes et bénéfiques. Pas de produits chimiques dans le jus et pas d'encre gaspillée pour une étiquette fantaisie. Où l'avait-il acheté ? Ce n'était pas ce qu'on trouvait dans les gares. Peut-être était-il végétalien et se méfiait-il des grandes sociétés, ne faisant ses achats que dans les marchés de producteurs, en portant son jus bio avec lui. Elle était agacée par les amis de Guinica, dont la plupart avaient le même comportement, leur côté vertueux l'irritait, mais elle était prête à pardonner à Blaine ses convictions. Il tenait un livre relié dont elle ne pouvait pas voir le titre, et il avait coincé le New York Times près de sa bouteille. Quand il jeta un coup d'œil à son magazine, elle regretta de ne pas avoir sorti le livre de poèmes d'Esiaba Irobi, qu'elle avait l'intention de lire dans le train au retour. Il allait penser qu'elle ne lisait que des revues de mode sans intérêt. Elle éprouva l'envie subite de lui dire combien elle aimait la poésie de Youssef Komunyaka pour se racheter. D'abord, elle masqua de la paume de sa main le rouge à lèvres éclatant du mannequin qui apparaissait sur la couverture. Puis elle se pencha pour glisser le magazine dans la poche du siège devant elle et déclara, avec un léger mépris, qu'elle trouvait absurde la façon dont les magazines féminins mettaient en avant des images de femmes blanches de petite corpulence et de petite poitrine et incitaient les autres, toute ethnie et toute corpulence confondues, à leur ressembler.
Mais je continue à les lire, dit-elle. C'est comme fumer, c'est mauvais pour la santé, mais vous le faites quand même.
Toute ethnie et toute corpulence confondues, répéta-t-il amusé,
la fixant de son regard chaleureux avec un intérêt non dissimulé. Elle apprécia qu'il ne soit pas le genre d'homme qui, lorsqu'il est attiré par une femme, affiche une certaine froideur, une indifférence feinte.
Vous êtes étudiante en maîtrise ?
Je suis en première année à Wilson.
Imagina-t-elle ou vit-elle son visage se fermer de déception ou de surprise ?
Vraiment ? Vous paraissez plus mûre ?
C'est vrai, j'ai fréquenté l'université au Nigeria avant de venir ici.
Elle changea de position sur son siège, décidée à revenir sur le terrain du flirt.
Vous, en revanche, vous avez l'air trop jeune pour être enseignant. Vos étudiants doivent avoir du mal à savoir qui est le professeur. Je pense qu'ils ont probablement du mal à comprendre un tas de choses. C'est ma deuxième année d'enseignement. Il se tut. Avez-vous l'intention de vous inscrire en troisième cycle?
Oui, mais je crains qu'une fois mon diplôme obtenu, je ne sois plus capable de parler anglais. Je connais une fille en maîtrise, l'amie d'une amie, et l'entendre parler est terrifiant. La dialectique sémiotique de la modernité intertextuelle, ce qui n'a aucun sens. J'ai parfois l'impression que ces gens vivent dans un univers académique parallèle et parlent l'académien au lieu de l'anglais, sans aucune idée de ce qui se passe dans le monde réel.
Voilà une opinion bien tranchée. Je ne vois pas comment je pourrais en avoir une autre.
Il rit, et elle fut contente de l'avoir fait rire.
Mais je vous comprends, ajouta-t-il. Mes sujets de recherche incluent les mouvements sociaux, l'économie politique des dictatures, les droits de vote et de représentation en Amérique, la race et l'ethnicité en politique, et le financement des campagnes. C'est mon boniment habituel, dont une grande partie est de la foutaise de toute façon. Je fais mes cours et me demande si une seule de ces matières intéresse les gosses.
Ah, je suis sûre que oui. J'aimerais beaucoup suivre un de vos cours.
Elle avait parlé trop spontanément. Elle ne s'était pas exprimée comme elle l'aurait voulu. Elle s'était donné, sans en avoir l'intention, le rôle d'une étudiante potentielle. Il parut vouloir changer de conversation. Peut-être n'avait-il pas envie d'être son professeur. Il lui dit qu'il regagnait New Haven après avoir rendu visite à des amis à Washington.
« Et vous, où allez-vous ? »
demanda-t-il.
« À Warrington, près de Boston. C'est là que vit ma tante.
Vous êtes déjà venue dans le Connecticut ? » ?»«
Pas souvent. Je ne suis jamais allée à New Haven, mais je connais les centres commerciaux de Stamford et de Clinton. »
Ah oui, les centres commerciaux.
Un pli se forma à la commissure de ses lèvres.
Vous n'aimez pas les centres commerciaux ?
Hormis le fait qu'ils sont sans âme et aseptisés, ils sont parfaits.
Elle n'avait jamais compris la mauvaise querelle faite aux centres commerciaux, le reproche d'y trouver partout exactement les mêmes choses. Les centres commerciaux lui paraissaient très rassurants dans leur uniformité. Quant à ses vêtements soigneusement choisis, il avait bien dû les acheter quelque part.
« Donc vous cultivez votre propre coton et fabriquez vos propres vêtements ?»
dit-elle. Il s'esclaffa, et elle rit à son tour. Elle s'imagina avec lui, main dans la main, se rendant dans le centre commercial de Stamford. Elle le taquinait, lui rappelait cette conversation le jour de leur rencontre et levait son visage vers lui pour l'embrasser. Ce n'était pas dans sa nature de parler à des inconnus dans les transports en commun. Elle le ferait plus souvent quand elle commencerait son blog quelques années plus tard. Mais ce jour-là, elle ne cessa de parler, peut-être à cause de la nouvelle intonation de sa voix. Plus il bavardait, plus elle se persuadait qu'il ne s'agissait pas d'une coïncidence. Il y avait un véritable sens à cette rencontre. Le jour même où elle avait retrouvé sa véritable voix. Elle lui raconta, avec le rire contenu de quelqu'un qui a hâte d'arriver à la chute de la blague, l'histoire du garçon qui faisait de la prospection téléphonique et qui croyait que Londres se trouvait en France. Il ne rit pas, mais secoua la tête.
Il ne les forme pas correctement. Je parie qu'il a un contrat à durée déterminée, pas d'assurance et pas d'indemnité.
Oui, dit-elle, refroidie par sa remarque. Je me suis sentie un peu triste pour lui.
Mon département a déménagé dans un nouveau bâtiment il y a quelques semaines.
Yale a engagé des déménageurs professionnels et leur a dit de mettre tout ce qui était dans l'ancien bureau de chaque personne précisément à la même place dans le nouveau. Ce qu'ils ont fait. Tous mes livres ont été remis sur les rayons, à l'emplacement exact où ils devaient être. Mais savez-vous ce que j'ai remarqué plus tard ? Beaucoup de ces livres étaient rangés la tête en bas.
Il la regardait comme pour constater l'effet de cette révélation, et elle resta un moment déconcertée, sans comprendre où il voulait en venir avec cette histoire.
« Ah, les déménageurs ne savaient pas lire !»
dit-elle enfin. Il hocha la tête. « Ça m'a laissé anéanti. » Sa voix se voila. Elle se mit à l'imaginer au lit. Un amant doux, attentionné, pour qui la satisfaction émotionnelle compterait autant que le plaisir physique. Il ne trouverait pas sa chère flasque. Il se réveillerait chaque matin d'humeur égale. Elle détourna rapidement les yeux, craignant qu'il ait pu lire dans ses pensées tant les images étaient claires. « Avez-vous envie d'une bière ? » demanda-t-il.
« Une bière ? » ?»«
Oui, il y en a dans la voiture bar. En voulez-vous une ? Je vais en chercher pour moi. »
« Oui, merci. »
Elle se leva, embarrassée, pour le laisser passer et espéra sentir quelque chose sur lui, mais en vain. Il n'utilisait pas d'eau de Cologne. Peut-être boycottait-il le parfum parce que les fabricants traitaient mal leurs employés. Elle le regarda parcourir le couloir, sachant qu'il était conscient qu'elle l'observait. L'offre d'une bière lui avait plu. Elle avait craint qu'il ne boive que du jus de grenade bio, mais elle ne s'en inquiétait plus s'il buvait également de la bière. Lorsqu'il revint avec les bières et des gobelets de plastique, il remplit le sien avec un geste généreux qui, à ses yeux, débordait de romantisme. Elle n'avait jamais aimé la bière. Quand elle était jeune, c'était une boisson d'homme, rude et vulgaire. À présent, assise à côté de Blaine, riant en l'écoutant raconter comment il s'était saoulé pour la première fois durant sa première année de fac, elle se rendit compte qu'elle pourrait se mettre à aimer la bière. La riche âpreté de la bière. Il parla de ses débuts à l'université, l'obligation imbécile de manger un sandwich au sperme durant son bizutage, s'entendre constamment appeler Michael Jordan durant un voyage en Chine l'été de sa première année d'université, la mort de sa mère d'un cancer une semaine après qu'il eut obtenu son diplôme.
Un sandwich au sperme ?
Il se masturbait dans un petit pain et il fallait en prendre une bouchée sans être obligé de l'avaler.
Oh mon Dieu !
Bon, avec un peu de chance, on fait des trucs stupides quand on est jeune que l'on ne fera pas adulte. Quand le contrôleur annonça que le prochain arrêt était New Haven, Ifemelu sentit un pincement de regret. Elle déchira une page de son magazine et y inscrivit son numéro de téléphone.
Avez-vous une carte ? Demanda-t-elle.
Il palpa ses poches. Je n'en ai pas sur moi. Il y eut un silence pendant qu'il rassemblait ses affaires. Puis le grincement des freins du train. Elle eut l'impression, espérant se tromper, qu'il ne voulait pas lui donner son numéro.
« Eh bien, voulez-vous l'écrire ici, si vous vous en souvenez ? » dit-elle.
Piètre plaisanterie. La bière avait fait jaillir les mots hors de sa bouche. Il inscrivit son numéro sur son magazine. « Bonne chance, » dit-il. Il lui effleura l'épaule en partant, et il y avait une lueur dans ses yeux, tendre et triste à la fois, qui suggérait qu'elle avait eu tort d'imaginer une hésitation de sa part. Elle lui manquait déjà. Elle s'installa sur son siège, s'imprégnant de la chaleur laissée par son corps après son départ, et le regarda par la fenêtre s'éloigner le long du quai. Quand elle arriva chez Tante Uju, elle eut envie de lui téléphoner aussitôt, mais elle pensa qu'il valait mieux attendre un peu. Au bout d'une heure, elle se dit merde et appela. Il ne répondit pas et elle laissa un message. Elle rappela plus tard. Pas de réponse. Elle appela et appela. Elle rappela à minuit. Elle ne laissa pas de message. Pendant tout le week-end, elle appela sans discontinuer et il ne décrocha jamais le téléphone. Warrington était une petite ville endormie, une ville satisfaite d'elle-même. Des routes sinueuses s'enfonçaient dans des bois touffus. Même la route principale, que les résidents refusaient de faire élargir, de peur d'amener un afflux d'étrangers venus de la métropole, était étroite et sinueuse. Des bosquets d'arbres masquaient des maisons endormies, et pendant les week-ends, le lac bleu était constellé de bateaux. De la fenêtre de la salle à manger de Tante Uju, le lac miroitant était d'un azur tranquille qui y retenait le regard. Ifemelu resta en contemplation jusqu'à ce que Tante Uju s'asseye à la table, buvant du jus d'orange et exposant ses doléances comme des bijoux. C'était devenu une habitude durant les visites d'Ifemelu. Elle rassemblait tous ses griefs dans une bourse de soie, les entretenait, les polissait, et quand Ifemelu venait en visite le samedi, Bartholomew absent et Dicky à l'étage, elle les étalait sur la table, les retournait chacun dans un sens puis dans l'autre, pour les mettre en lumière. Il lui arrivait de répéter deux fois de suite la même histoire, comme celle du jour où elle était allée à la bibliothèque municipale, avait oublié de sortir de son sac le livre qu'elle n'avait pas rendu et que le garde lui avait dit « Vous autres ne faites jamais rien comme il faut ». Ou du jour où elle était entrée dans une salle d'examen et qu'une patiente avait demandé «
Est-ce que le docteur va arriver ?
Elle avait répondu qu'elle était le docteur, et le visage de la patiente s'était soudain changé en pierre.
Et tu sais, l'après-midi même, elle a téléphoné pour faire transférer son dossier à un autre médecin. Tu imagines ?
Qu'est-ce que Bartholomew pense de tout ça ?
Ifemelu fit un geste qui englobait la pièce, la vue du lac, la ville.
Cet homme est trop occupé à décrocher de nouvelles affaires. Il part le matin tôt et rentre toujours tard. Parfois, Dickey ne le voit même pas de toute la semaine.
Je m'étonne que tu sois encore ici, tante,
dit Ifemelu calmement. Et ici, comme elles le savaient toutes les deux, n'indiquait pas seulement Warrington.
Je veux avoir un autre enfant. Nous avons essayé.
Tante Uju s'approcha et se tint près d'elle à la fenêtre.
Un bruit de pas résonna sur les marches en bois de l'escalier et Dickey entra dans la cuisine, vêtu d'un short et d'un t-shirt délavé, sa Game Boy à la main. Chaque fois qu'Ifemelu le revoyait, il lui paraissait plus grand et plus renfermé.
« Tu comptes porter ce t-shirt au camp ?»
lui demanda tante Uju.
« Oui, maman, » répondit-il, les yeux rivés sur l'écran qui clignotait dans sa main.
Tante Uju se leva pour vérifier le four. Ce matin, pour son premier jour de camp d'été, elle avait accepté de lui faire des croquettes de poulet pour le petit déjeuner.
« Coz, on va toujours jouer au football tout à l'heure, hein ?»
demanda-t-il.
« Oui, » dit Ifemelu. Elle lui piqua une croquette dans son assiette et la porta à sa bouche.
« Des croquettes de poulet au petit déjeuner, c'est déjà bizarre, mais est-ce du poulet ou du plastique ?»«
Du plastique épicé, » dit-il. Elle l'accompagna jusqu'au bus et le regarda s'en aller. Les visages des autres enfants pressés contre la vitre. Le chauffeur la saluant gaiement. Elle l'attendait au même endroit quand le bus le ramena dans l'après-midi. Il y avait une sorte de retenue sur son visage, presque de la tristesse.
« Qu'est-ce qui ne va pas ? » demanda-t-elle, un bras passé autour de ses épaules.
« Rien, » dit-il. « Est-ce qu'on peut jouer au foot maintenant ?»«
Quand tu m'auras dit ce qui est arrivé. »
« Il n'est rien arrivé.
Je crois que tu as besoin d'un peu de sucre. Tu en auras sans doute trop demain, avec ton gâteau d'anniversaire, mais pour l'instant, viens prendre un biscuit. »
« Est-ce que tu apprivoises les enfants que tu gardes avec des sucreries ? Dis donc qu'ils ont de la veine !»
Elle rit. Elle sortit le paquet d'Oreo du réfrigérateur.
« Est-ce que tu joues au foot avec les enfants que tu gardes ?»«
Non, » dit-elle, bien qu'il lui arrivât de jouer avec Taylor, en voyant et renvoyant le ballon dans le grand jardin planté d'arbres à l'arrière de la maison. Parfois, quand Dickey l'interrogeait sur les enfants dont elle s'occupait, elle satisfaisait son intérêt enfantin, lui parlait de leurs jouets et de leurs occupations, mais veillait à ce qu'ils ne paraissent pas avoir trop d'importance pour elle.
« Alors, comment s'est passée ta journée au camp ?»«
Bien. »
Un silence.
« La monitrice de mon groupe, Hayley, elle a affilé de la crème solaire à tout le monde, mais elle n'a pas voulu m'en donner. Elle a dit que je n'en avais pas besoin. »
Elle regarda son visage, étrangement dépourvu d'expression, inquiétant. Elle ne sut quoi dire.
Elle a pensé que parce que tu as la peau sombre, tu n'as pas besoin de crème solaire, mais tu en as besoin. On ignore souvent que les gens de couleur ont besoin de protection contre le soleil. Je vais t'en apporter, ne t'inquiète pas.
Elle parlait trop vite. Elle n'était pas sûre de dire ce qu'il fallait, ni même de savoir ce qu'il fallait dire, et inquiète parce qu'il était troublé au point qu'elle l'avait vu sur son visage.
T'en fais pas, dit-il. C'était plutôt drôle. « Ça a fait rire mon ami Danny. »«
Pourquoi a-t-il trouvé que c'était drôle ?»«
Parce que ça l'était. »«
Tu aurais voulu qu'elle te donne aussi de la crème solaire, c'est ça ?»«
Ouais, » dit-il avec un haussement d'épaule. « Je veux seulement être comme les autres. »
Elle le serra contre elle. Un peu plus tard, elle alla au magasin et lui acheta un grand flacon de crème solaire. Et quand elle revint la fois suivante, elle le vit posé à plat sur sa commode, oublié. Et inutilisé.
Comprendre l'Amérique pour les Noirs non américains. Le tribalisme américain. En Amérique, le tribalisme se porte bien, merci. Il en existe quatre types: classe, idéologie, région et race. D'abord la classe. Plutôt facile. Les riches et les pauvres. Deuxièmement, l'idéologie. Les libéraux et les conservateurs. Leurs désaccords ne sont pas seulement politiques. Chaque bord voit dans l'autre le mal absolu. Les mariages mixtes sont découragés, et dans les rares cas où ils sont conclus, ils sont considérés comme exceptionnels. Troisièmement, la région, le Nord et le Sud. Les deux côtés ont mené une guerre civile et il en subsiste des traces douloureuses. Le Nord prend le Sud de haut, tandis que le Sud n'aime pas le Nord. En dernier lieu, la race. Il existe une échelle hiérarchique des races en Amérique. Les Blancs sont toujours au sommet, en particulier les Blancs anglo-saxons protestants, les WASP, et les Noirs américains tout en bas. Ce qui est au milieu dépend de l'époque et du lieu. Comme dit la chanson, si vous êtes blanc, épatant, si vous êtes brun, c'est moyen, si vous êtes noir, allez vous faire voir. Les Américains présument que chacun comprendra leur tribalisme. Mais il faut un bout de temps pour arriver à tout démêler. Par exemple, en première année de fac, nous avons eu la visite d'un conférencier et une étudiante a dit tout bas à une autre « Oh mon Dieu, il a l'air tellement juif !» en frissonnant. Comme si être juif était une chose épouvantable. Je n'ai pas compris. Autant que je sache, l'homme était blanc, pas vraiment différent de l'étudiante. Juif était quelque chose de vague, quelque chose de biblique, mais j'ai vite appris. Voyez-vous, dans l'échelle des races en Amérique, un juif est blanc, mais quelques échelons au-dessous du blanc. Un peu déconcertant, parce que je connaissais une fille aux cheveux couleur de paille, couverte de taches de rousseur, qui disait qu'elle était juive. Comment les Américains peuvent-ils deviner qui est juif? Comment l'étudiante savait-elle que l'homme était juif? J'ai lu quelque part que des universités américaines demandaient aux candidats le nom de famille de leur mère, pour s'assurer qu'ils n'étaient pas juifs, parce qu'elles n'admettaient pas de juifs dans leur établissement. Peut-être est-ce une façon de savoir? D'après le nom des gens? Plus vous séjournez dans ce pays, plus vous commencez à comprendre.